Mesdames, Messieurs les officiers,
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être venus à ma rencontre.
Je remercie la librairie Mola. La librairie Mola est une référence en France et peut-être même à l'étranger.
C'est un plaisir de vous rencontrer afin d'évoquer rapidement la présence américaine dans notre région, mais aussi à Bordeaux et dans l'agglomération durant la période OTAN, de l'OTAN, de 1950 à 1967.
Donc, je suis là pour vous parler du tome 2.
Mais le tome 2, c'est, comme son nom l'indique, n'est que la suite du tome 1. Alors, le tome 1, on m'a demandé pourquoi vous avez
travaillé sur ce sujet-là. Tout bonnement parce que ma femme est des Landes et habite le village où était le camp de Captieux, la base vie du camp de Captieux. Et l'ancien maire et président de Sylviculture du Sud-Ouest m'avait demandé, toi qui t'intéresses à la sociologie et à la vie des familles du village de Région, où se trouve le camp, fais-moi une histoire du lieu. Et je me suis aperçu qu'il y avait, sur le site de Région, il y avait la base vie américaine. Étant une famille de militaires d'un environnement militaire, bon, je me suis intéressé à cette question-là. Et j'avais la chance d'avoir sur Reggio un capitaine des paramilitaires polonais, avec énormément de documents, et également l'interprète officiel désigné par la préfecture de Bordeaux, pour les Américains, et son épouse qui travaillait à l'état-major américain, qui était la direction du colonel commandant la base de Captieux. Donc, énormément de documents, ce qui m'a permis de travailler sur le premier tome. Et en substance, mon premier tome, c'est le camp de Captieux, c'est Captieux depuis 1870, les moutons, la présence des moutons, le marché mouton jusqu'en 2004, où la base aérienne de Mont-Marsan prend la relève à la suite du départ d'abord en 67 des Américains, c'est-à-dire après en 67 c'est le centre d'essai des Landes qui fait les essais, qui reprend le camp de Captieux, et ensuite à partir de 2004 c'est la base aérienne, voilà. J'ai dédicacé à Captieux et on m'a dit, c'est bien, mais il faudrait faire une suite. Alors j'étais quand même un peu surpris d'articles qui ont paru sur Sud-Ouest au printemps 2010, trois gros articles, basés plutôt sur la présence des écologistes. Alors, réunion avec le préfet des Landes, la région du parc de Gascogne, Natura 2000, etc. Et déclaration sur le camp de Captieux, il n'y avait pas de munitions. Et les Américains n'ont pas eu le temps de finir ce qu'ils avaient à faire. Alors, ça m'a fait un petit peu bondir, compte tenu que des milliers de Français de toute la région travaillaient dans les camps américains. Surtout à Captieux, il y avait 900 Américains, à peu près 900 Français qui travaillaient un turnover aussi. Là. Donc c'est toute la région, il y avait des Bordelais qui venaient travailler à Captieux, etc. Donc les gens ne sont quand même pas fous, ils savaient qu'il y avait des munitions à Captieux. Alors dire qu'il n'y avait pas de munitions à Captieux, que tout était clair et net, c'est faux. Bon, voilà. Donc j'ai voulu, dans mon deuxième tome, mettre des précisions sur les munitions, sur le cas des munitions, sur les 150 000 tonnes de munitions qu'il y avait, sur les 300 km de route que les Américains avaient créé, avec 9 000 soutes. Donc, Captieux, c'est le camp des munitions le plus important d'Europe. Il est la base arrière de l'armée américaine, le plus au sud, donc pratiquement inattaquable. Et c'est là où reposera la bombe atomique, la bombe A, et la bombe H. Bon, c'est ce que peu Olivier Potier a dit dans sa thèse de doctorat d'histoire. Il annonce pas ouvertement, moi je le dis ouvertement, compte tenu qu'en 61, lorsqu'il y a eu cette affaire du checkpoint Charlie en 61 à Berlin, on a failli avoir une troisième guerre mondiale, une guerre atomique. Donc les Américains savaient la force de l'Union soviétique militaire, les Américains connaissaient leur force, et le général Lemay, dont son nom n'indique pas, mais qui était un général américain, le fanatique de la bombe atomique, c'est lui qui a exercé la bombe atomique au Japon, lui était prêt à tout faire sauter.
Il connaissait la puissance soviétique et il suffisait d'une rafale de mitraillette pour que tout démarre. Alors, comme disaient les anciens pilotes du US Air Force qui étaient présents dans la région, en Allemagne à cette époque-là, ils parlaient du général Lemay. Et général Lemay était un personnage qui ressemblait un peu au gorille, avec excessivement poilu, avec les mains qui traînaient par terre. C'était un monsieur excessivement intransigeant et particulièrement anticommuniste. Donc lui n'aurait pas hésité s'il y avait eu le moine Pépin, etc. C'était une troisième guerre mondiale. Bon, heureusement, elle n'a pas eu lieu, mais on assiste dans les camps à une arrivée massive de militaires dans les années 61. C'est là où on trouve une arrivée massive. Dans mon deuxième tome, c'est les précisions sur les munitions capcieuses, et c'est aussi les autres camps. Alors, c'est la vie des Américains dans les camps, qui est à peu près semblable, mais chaque camp a sa spécificité. Capcieux, c'est les munitions pour l'armée de terre, probablement le dépôt, ce qu'on dit, le dépôt de la bombe atomique ou la bombe H. Sur Bordeaux, les Américains sont présents sur Bordeaux. Il y a l'agence de construction pour l'armée américaine pour la région qui est le 55 boulevard Wilson. Donc là, il y a 200 personnes qui travaillent en turnover, sans une centaine d'Américains, une centaine de Français. Alors aujourd'hui, il devait être présent Pierre Angelby, qui est un ancien, qui a travaillé avec les Américains, qui a connu cette période-là. Malheureusement, il s'est fait opérer hier et il m'a dit « je ne peux pas venir ». Mais bon, il aurait été intéressant parce qu'il a bien connu cette période-là. De construction, il a participé en tant que contrôleur aux travaux de construction des châteaux d'eau, des bâtiments, etc., tant au camp de Capcieux qu'au camp de Bussac-Forêt, juste de l'autre côté du département de la Gironde, également sur peut-être sur Fontenay, etc. Bon, voilà. Donc, je m'exprime donc également sur le camp de Bussac-Forêt, qui est un camp sur lequel les Américains font de la chimie. Ils ont de la chimie. Ils ont toute une zone d'essence, de dépôt d'essence. Ils ont également à Bussac-Forêt une zone de pour les mortuaires, pour les corbillards, etc., pour tous les gens qui arrivent pour être enterrés, pour partir vers les États-Unis. Il y a l'hôpital américain. Enfin, il y a un contexte assez important. Le camp de la Braconne est spécialisé dans le montage des tanks. Le camp de Fontenay, Saint-Jean-d'Angély, eux, sont spécialisés dans la manutention, le montage des anciens, la réparation des engins qui arrivent d'un peu partout, de France, d'Allemagne, etc. Chaque camp a sa spécificité. Et concernant le camp de Chizay, alors le camp de Chizay est un camp de l'US Air Force, munitions pour l'US Air Force. Alors, d'après les photos qu'il y a, on pense que la bombe atomique était là aussi, à Chizay, prête à partir pour la base de aérienne de Châteauroux, ou la base aérienne de Toul-Rosières, ou Évreux. Enfin, ça pourrait partir de là. Il suffisait d'une heure ou deux, et puis bon, ça y est, c'était parti. Voilà. Qu'est-ce que je peux me dire en plus? Les Américains font tout venir des États-Unis. Ils aménagent, ils ont leurs écoles, les écoles scolaires primaires pour les petits. Ils ont un collège américain. Ils ont un collège américain à Poitiers. Ils ont concernant les bases, les PIEX, les postes échanges, c'est-à-dire c'est là les futurs supermarchés qui vont devenir ensuite les Leclerc, les Carrefour français, etc. Donc ils sont à l'avant-garde de la modernité, de tout ce qui va se faire ensuite. Ils apportent la modernité. Voilà. Et ce que certains refusent de voir aux Américains, c'est le rapport de modernité, etc. Non, il faut rester tranquille dans son coin et puis rester comme on est. Voilà. Donc, voilà. Alors, l'aménagement des camps se fait petit à petit. D'abord par les tentes. Ils sont sous les tentes. D'abord, il faut aménager les camps. Hein, on a vu là, tout à l'heure, l'aménagement avec les bulldozers qui aplanissent, etc. Les terrains ne sont pas. Alors, ce sont des terrains qu'ils connaissaient déjà. Les Américains connaissaient toutes ces camps, toutes ces bases déjà en 1918 et même avant, puisqu'ils s'étaient installés, ils étaient au camp de Capsule en 18 pour couper les arbres pour qu'ils allaient servir pour les tranchées du nord de la France, reconstituer les tranchées qui avaient été boulées, reconstituer les voies ferrées, les voies de traverse pour les voies ferrées. Donc les Américains abattent en 6 mois 50 000 arbres sur Capsule. Hein. Donc ils connaissent très bien tous ces camps-là. Et ils y reviennent très facilement en 1950. Donc, voilà. Donc, 1950, ben c'est le retour des Américains. Le gouvernement français n'est pas d'accord. Mais les Américains disent, oui, mais nous, on vous a aidé en 1916. On a 2 millions d'Américains sont venus se battre en France. On a eu énormément de morts. Notamment le fils du président de la République, le fils de Theodore Roosevelt, Quentin Roosevelt, qui était pilote, qui a été tué le 14 juillet 1918. Theodore Roosevelt a eu son deuxième fils qui est mort lors du débarquement dans la guerre mondiale. Donc il y a eu énormément de morts chez les soldats américains. Donc, aide américaine en 1918, ensuite aide américaine en 1944, hein, et ensuite, bon, le plan Marshall, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est l'amener par le général Marshall du plan Marshall pour la reconstruction, un apport financier pour remettre en route la machine économique française et européenne. Donc, les Américains insistent auprès des autorités françaises pour s'installer en France, pour avoir une base arrière en France. Et ils disent, ben, nous n'avons qu'un port de débarquement en Allemagne, c'est Bremerhaven. Et nous, il nous faut une base arrière et des débarquements sur l'Atlantique. Alors, le gouvernement français traîne les pieds. Les officiers supérieurs américains mettent la pression sur les officiers supérieurs français qui sont en occupation en Allemagne. Il y a des pressions de partout. Et finalement, bon, je crois que c'est le 9 avril 1949, on est dans l'OTAN. Les Américains donc peuvent rentrer en France. Et à partir du début novembre 1950, ce sont des milliers d'Américains qui vont arriver très rapidement, comme savent le faire les Américains. Ils vont très vite. Tout est organisé, tout est planifié. Et la France n'est pas prête à recevoir ces quantités d'Américains. C'est un peu la panique. Hein. Donc, ces Américains sont là. Il faut les héberger. Hein. Les officiers américains, les sous-officiers vont arriver petit à petit avec leur famille et les enfants, il va falloir les loger. Alors, c'est un peu la course au logement. Hein. C'est des locations partout, ici à Bordeaux, etc. Et puis aussi, ils demandent des créations de lotissements. Alors, ils se créent des petits lotissements. Ici, on en avait un à Pessac, il y en avait un à Senon. Il y en avait un peu partout. Et alors, et les Américains sentent qu'ils ne peuvent pas avoir de suite ce qu'ils souhaitent, les logements pour ceux. Alors, ils sont un peu provocateurs, parce qu'à un moment donné, ils vont à Pessac, à la cité canadienne, et puis ils vont avec 4 ou 5 voitures américaines, et puis ils regardent des maisons, et ils vont croiser, et puis ils disent « Ah, mais cette maison-là nous intéresserait bien ». Alors, les gens sont furieux, prennent des numéros de voiture, portent plainte à la préfecture en disant « Qu'est-ce que c'est ? Ils veulent nous prendre nos maisons, etc. » Donc,
Mais et petit à petit, bon, les constructions de lotissements vont se faire. Ça va de 50 lots à 100 lots, 150 lots, ça dépend. Mais ça met parfois 5 ans, 10 ans pour que ces constructions arrivent à se faire parce qu'il y a des réticences, parce qu'on n'arrive pas. Ils n'arrivent pas à avoir des gens qui vendent leur terrain, donc c'est compliqué. Voilà, donc ils s'installent, ils ont des lotissements, ils ont leur culte, leur chapelle, leur cinéma, les salles de sport, les terrains de baseball, enfin il y a tout, il ne manque rien. Au camp d'Engrand, ils ont leur boulangerie, c'est-à-dire qu'ils fabriquent leur pain américain. Ils ont des hôpitaux, ils ont des interprètes, et ils font les mariages religieux, les deux religions, protestantes et catholiques, avec un système d'hôtels qui pivote en fonction de... dans c'est aménagé. Donc, énormément de mariages. Je crois qu'on a parlé de 5000 mariages officiels en France. Et puis, bon, ils ont laissé des souvenirs. Alors, le gros problème d'aujourd'hui, c'est les quantités de jeunes, entre guillemets, des personnes qui ont 50, 60 ans, qui cherchent leur père américain, noir ou blanc. Donc, voilà, c'est le sujet de demain. Et c'est ce qu'on les questions qu'on me pose. Est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver mon père, etc. Alors, s'il m'est arrivé, oui, de retrouver la famille d'une américaine blanche, mais c'est très compliqué. Je l'ai retrouvé parce qu'il s'est trouvé que l'américain était marié et que son épouse est venue ensuite habiter en France et qu'il lui fallait une carte de séjour. Et grâce à cette carte de séjour, j'ai pu retrouver par les relationnels américains, j'ai pu retrouver la famille, mais c'est très compliqué et ça peut poser des problèmes juridiques et également. Alors, ils se divertissent énormément. Ils organisent des spectacles. Ils ne restent pas sans bouger. La troupe circule. Ils vont sur Capcieux. Ben, ils vont aux fêtes de Corrida. Ils vont à Lourdes. Ils vont tout ce qui peut les intéresser, leur faire passer du temps. Tout est bon. Beaucoup d'organisations. Alors, ce que j'ai regretté aussi, c'est que chez les Américains, il y a une ségrégation. Les Noirs d'un côté, les Polonais de l'autre. Et c'est un peu regrettable. Bon, les officiers américains font des manifestations, font des festivités, mais ils n'évitent pas les officiers polonais. Alors, c'est un peu regrettable. Moi, personnellement, dans mon deuxième tome qui est préfacé par l'ambassade de Pologne, l'ambassade de Pologne me remercie de mettre un peu les Polonais en exergue, parce qu'ils avaient tendance à être un peu rabaissés, parce qu'ils étaient des maîtres chiens, etc. Mais c'était des pauvres gars qui avaient fui la Pologne, fui le stalinisme, fui le nazisme. Ils se sont réfugiés dans l'armée américaine. Ce sont des gens qui ont beaucoup souffert. Je n'ai rencontré quelques-uns, un sur Pessac, sur Vilna, qui a été Auschwitz. Un autre qui a, dans les Deux-Sèvres, qui s'est promené pendant 15 ans avec une blessure qu'il avait, un éclat de bombe qu'il avait contracté à la frontière biélorusse. Et pendant 15 ans, il s'est traîné. Il a fallu 3 opérations, que la troisième opération soit la bonne pour qu'on extrait cet éclat de bombe après y avoir découpé un bout de hanche. Mais bon, mais ce sont des gens très, très courageux, très attachants. Et bon, moi, j'essaie de les mettre en exergue. Bon, voilà. Les Noirs américains sont à part. C'est ce qui provoque aussi des bagarres. Dans les bars, dans les bistrots, entre blancs, entre Français, entre Noirs américains, entre Polonais, etc. Donc la police militaire américaine intervient à tout moment. On boit beaucoup. Il n'y a pas d'excès de contrôle d'alcoolémie, il n'y a pas de contrôle de vitesse. Donc énormément d'accidents. Moi, j'ai mon oncle qui a eu sa voiture, sa deux chevaux, explosée par un GMC conduit à Toul, en Lorraine, par un militaire noir américain conduit à gauche.
Bon, il s'en est sorti par miracle, avec quelques points de suture, mais enfin, voilà, bon, c'était la vie américaine. Et c'était aussi, pour les Américains, un gros mélange, parce qu'on avait dans ces camps des appelés, un appelé qui arrivait du fin fond du Texas, qui se retrouvait à Captio, ils prononçaient l'américain, Captio. Il y avait des anciennes Corées, des durs de Corée qui arrivaient de là-bas. Il y avait des Noirs, ils arrivaient d'un peu partout. Et donc, bon, ben, il y avait un climat qui, petit à petit, s'est mettait en place petit à petit. Voilà, donc... il y a eu des mariages mixtes, les maisons de tolérance, bah, il y a des maisons de tolérance, il y en avait à proximité de chaque camp, il y en avait à Capsieu le long de la route de Pau, hein. Bon, c'est un petit sujet que j'ai évoqué très rapidement, j'avais une belle sœur qui est huissier de justice qui m'a dit oh, il faut travailler là-dessus, c'est pas mon sujet, je vais pas faire un livre sur la prostitution, c'est pas ça, je fais un effet des bouquins sur l'armée, sur la présence militaire, etc. Donc j'aborde ce sujet très légèrement dans mon premier volume, mais voilà, donc mais il y en a partout, il faut que ces militaires se défoulent, et le lundi ils ont des visites médicales pour voir s'ils n'ont pas attrapé quelques maladies. Il m'a fait, bon, ça fait partie de l'armée. J'ai discuté avec un camarade de promotion de Molon qui me disait, moi, j'avais, en tant qu'officier, j'étais responsable de cette partie-là aussi, de ces jeunes qui allaient dans les boîtes, etc. Alors, on avait à Bordeaux, rue Mably, un café qui existe toujours, rue Mably, d'ailleurs, que les Américains avaient acheté. Et là, ça vient de bar, puis ensuite, bon, ils montaient, etc. Alors, les Américains, ils étaient où ? Ben, ils étaient un peu partout. Il y avait un centre administratif qui était rue d'Ornano, dans la partie de la rue d'Ornano qui a été démolie. Les officiers américains avaient un cercle militaire à eux, pour les officiers, qui était au 6 cours d'intendance. Il y avait au Splendide Hôtel à l'île d'Orléans, c'est là que se passaient toutes les réunions officielles entre les autorités américaines et les autorités de la région. Donc ça se passait là. Et tout ce monde bougeait un peu partout. Il y avait des Américains à Bacalan, il y avait des Américains à Gradignan. Et il y avait les Américains au Verdon. Alors, les Américains au Verdon, ce sera le troisième tome. Mais on peut dire qu'il y avait, en gros, 4 à 5 000 Américains en permanence dans la Gironde. Et c'était un turnover. Parce qu'ils ne restaient pas, ils ne sont pas restés. Ils restaient un an, deux ans. Et puis, bon, ben, après, ils partaient en Allemagne, ils partaient à droite, ils partaient à gauche, hein, etc. Et c'était pareil pour les civils. Les civils, c'était un turnover. Il n'y a pas de civils qui sont... Il y a très peu de civils qui sont restés 15 ans, 16 ans. C'était 2 mois, 6 mois, etc. Donc, ce sont des milliers de civils qui ont travaillé pour les Américains durant ces 15-16 années. Alors, certains cas, le camp de Captieux a fonctionné à plein temps pendant les 16 ans, 16-17 ans. De novembre 1950, où le service du génie est arrivé, jusqu'au départ, c'était le 29 mars 1967, puisque le général de Gaulle leur a donné un an pour partir. Hein. Alors, il faut voir que ce qui fait un tout, ce qui me gêne un petit peu, ce qui fait un tout chez les Américains, c'est la vie des Américains dans les camps, mais c'est aussi l'approvisionnement. L'approvisionnement, il se fait par bateau. Hein. Les quantités de munitions, etc., de matériel arrivent par bateau. Alors, on a parlé des problèmes de munitions sur Captieux. Il faut voir qu'il y a eu des intempéries sur Captieux, des grosses tempêtes, le feu, et ils avaient posé sur les 9000 soutes ils avaient posé les munitions sur des travées en bois, en pin, qui évidemment, avec l'humidité, etc., au bout de 2-3 ans, les poutres se sont effondrées. Donc il a fallu changer des milliers de poutres en bois par des UPN, en ferraille. Hein. Donc ça n'était pas prévu dans les budgets américains. Il y a eu une grosse tempête, hein, je crois, en 1957, qui a démoli 600 ou 700 Utmans. Ce sont des petits bungalows dans lesquels ils mutaient les munitions. Donc il a fallu remplacer ça. Ça, c'était pas prévu dans les budgets. Et tous les ans, les Américains avaient un budget pour avancer dans les travaux, etc. Donc ils ont construit des igloos. Aussi, ils appellent ça des igloos, c'était des soutes à munitions semi-enterrées, hein, recouvertes de terre. Hein, et tous les ans, ils construisaient 6, 7, 8 igloos, etc. Alors c'est sûr que, ils n'ont pas eu le temps de finir ces igloos, parce que les Américains, jusqu'au dernier moment, étaient persuadés qu'ils allaient rester en France et que ça allait se perpétuer, etc. Les services secrets américains savaient très bien qu'à partir de 60-61, De Gaulle allait les mettre à la porte, compte tenu que le général De Gaulle était gêné avec la bombe atomique. Le gouvernement savait qu'il y avait la bombe atomique. Les Américains demandaient la permission d'avoir la bombe atomique en France, alors par politesse, alors qu'ils savaient très bien qu'elle y était. Hein, tout le monde savait qu'elle y était, mais ils ont demandé l'autorisation. Ils demandaient quand même par politesse d'autorisation, mais ça y était. Pour les dancing, oui, ils venaient. Il y en avait sur Capsieux. Ils allaient sur Capsieux, sur Montmartre, mais ils venaient, je pense, aussi sur Bordeaux. Hein. Ils avaient énormément de moyens, puisque un dollar c'était 6 francs. Hein, donc c'était les rois. Hein, ils s'achetaient des voitures, ils roulaient, ils allaient pas partout. Ils allaient à Barcelone faire la fête, etc. Ils achetaient des voitures à plusieurs. Donc, les Américains circulaient partout.
Oui, ça me revient. Donc, les Américains en 61 savent, les services secrets américains savent qu'en 61, que le général de Gaulle prépare la bombe atomique et qu'il faudra qu'il parte. D'ailleurs, le général de Gaulle reçoit Khrouchtchev à Paris en 61. De Gaulle est invité par Khrouchtchev à Moscou, il va à Moscou. Et le sujet, c'est ça, c'est la bombe atomique. Donc la bombe atomique est faite avec l'aide des Américains très rapidement à Reagan, au Sahara, avec les opérations gervoises, bleues, vertes, etc., toutes les couleurs. Ça va très vite. Le général de Gaulle, la bombe atomique, donc il ne veut plus d'Américains, ça pose des problèmes avec les Soviétiques. Il dit, les Américains, c'est terminé. Les Américains pensent que c'est du bluff, qu'ils vont rester, mais quelque part, en 64... On sent déjà en 64 à la Baraconne que les Américains commencent à débaucher le personnel. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. En 64, c'est réduit. En 62, l'agence de construction américaine, qui est au 55 Boulevard Wilson ici, également ferme. Les travaux de construction s'arrêtent. Ouais. Et on sent une dégression petit à petit des interventions américaines, des installations américaines, petit à petit. Donc, ils ont un an pour partir. Ils ont donc amené environ 3-4 millions de tonnes de matériel en 10 ans, 10-12 ans. Hein, et en un an, il faut qu'ils rembarquent tout. Mais c'est pas possible. Hein. En un an, ils n'ont pas le temps. Alors, ils rembarquent un maximum de matériel. Mais tout ce qu'ils peuvent pas. D'abord, ils sont furieux de partir, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient rester comme ils sont restés partout en Europe. Et qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qui ne peut pas être rapatrié par bateau, par avion, etc., ils font des trous, ils enterrent. Alors, ils ont enterré partout. Ils ont enterré à Capsieux. Capsieux, 10 000 hectares, il y a de la place. Donc on fait le trou. De profondeur d'une pelle 4 mètres, et on enterre de tout. Tout ce que de la machine à écrire, au bulldozer, etc. J'ai un témoignage d'un Américain, moi, qui veut rester anonyme, qui était revenu comme civil pour s'occuper de débarrasser les camps. Et
bon, ça, le matériel partait, mais tout ce qui n'a pas pu partir a été enterré au camp de Capsieux. Donc, on peut penser qu'au camp de Capsieux, il y a des trous partout, avec des affaires dedans. Alors, ça va être des machines écrites, comme je dis tout à l'heure, au bulldozer, etc. On m'a dit aussi au camp de la Braconne qu'ils avaient trouvé, en construisant un bâtiment sur une zone industrielle, parce que c'est devenu des terrains qui appartiennent au conseil généraux maintenant. Et donc les terrains sont vendus à des industriels, et en creusant pour faire les fondations, ils sont tombés un jour sur une Jeep. Donc ils ont sorti la Jeep et ils ont trouvé la boîte de dépannage avec tout dans la graisse, tout prêt à fonctionner, tout impeccable. Et on m'a dit également que sur un autre, ah oui, c'est sur le Verdon. Alors là, le Verdon, c'est un peu particulier parce que là, ils sont partis en deux jours, le Verdon. Il y avait 2000 Américains. Les Américains posent la question, disant, voilà, nous, on fait des chargements au Verdon, mais à partir de tel jour, on ne va faire que du débarquement de munitions. Et là, il y a eu un refus déguisé de la part des municipalités, en disant, bon, de toute façon, il faut des marges de sécurité pour les munitions, alors qu'ils débarquaient déjà des munitions depuis 5 ans, 6 ans. Mais bon, là, c'était que des munitions, donc il fallait 4 km d'éloignement, alors qu'il n'y en avait que 2. Donc c'était des prétextes pour dire, bon, non, pas de truc. Donc les Américains, du jour au lendemain, sont partis. En deux jours, ils sont partis. Ils quittent le Verdon. Et que font les Américains? Ben, il y a du matériel. Donc ils ont enfoui leurs voitures ils n'avaient pas le temps de les vendre, etc. Ils ont enfoui les voitures américaines dans les dunes, dans les sables. Donc, il faut encore creuser, gratter, on va retrouver les voitures là-bas. Donc, voilà. Donc, je crois que les Américains s'en vont. Les Français, les civils français, certains ont été recasés à partir de 1964. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas recasé en 67, donc ça crée un gros chômage en 67. Ce sont des dizaines de milliers de Français qui se retrouvent au chômage. Et voilà. Donc, je n'ai fini. Voilà.
Merci.